Bien, je crois qu'on peut remercier Philippe de cette intervention certes longue, mais je crois bien sûr que tu as apporté sans note, que tu as une connaissance à propos du dossier, et vraiment je pense que c'est intéressant, ça m'aurait fait. Tiens, vous avez la parole, on ne va pas y passer la soirée la nuit, mais je pense que maintenant c'est à vous d'intervenir, soit en termes de questions, soit en termes de mandat, de critique ou de complément. Voilà. Il y a un micro, je crois, qui, voilà, que notre ami va se faire un plaisir de porter, de vous remettre. N'hésitez pas. Vous savez, quand même, on a l'habitude de ne pas trop, disons, d'arrêter vers 8h30. On peut essentiellement voir selon votre appétit et intérêt pour le débat.
Merci. Mais je voulais parler justement du problème l'islam. Parce que je me souviens très bien que quand le mur de Berlin a tombé, je m'étais fait une réflexion en me disant que bon, le monde avait fonctionné avec cette polarité communiste-libéraux qui avait structuré toute la politique à l'est comme à l'ouest et qui avait entretenu, comment dire, une économie militaire, etc., toute une série de structures motivées par cette dualité. Et je me suis dit, ils vont la remplacer. Alors que tout le monde était à l'euphorie et finalement c'est la paix, c'est fini. Moi, je me disais, ça ne va pas marcher. Ils vont remplacer cette dualité communiste-libéraux par la dualité chrétien-musulman. Et ça a pris un peu de temps pour se mettre en place, mais maintenant, c'est vraiment évident. Et je crois que là, il faut approfondir un peu ces problèmes-là. Si on veut sortir du jeu que l'extrême droite fait avec les problèmes du musulman. C'est pas seulement l'immigré, mais comme vous l'avez dit très justement, c'est vraiment le musulman qui est visé, parce qu'on reconstruit les deux blocs. Je voudrais bien avoir votre avis là-dessus.
Peut-être on peut en prendre d'autres interventions encore, tu as évidemment une question.
Oui. Je voulais simplement demander à Philippe Lamy ce qu'il pense de l'interdiction. Enfin, si c'est pas une interdiction, mais du fait que le Front National n'a jamais pu être effectivement représenté dans les instances démocratiques par rapport à une proportionnelle absente. Et est-ce que finalement le poids qu'il pèse aujourd'hui n'aurait pas été moindre s'il avait eu des représentants à l'Assemblée nationale ?
Une autre intervention ici ? On va pour l'instant à droite de notre part à nous, et après on ira à gauche.
Oui, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi certaines régions de France sont plus particulièrement, je dirais, touchées par le Front National? Je pense quand même à PACA, l'Alsace. Et pourquoi est-ce qu'il y a une population avec des caractéristiques particulières qui font que le Front National se développe dans ces territoires plutôt qu'ailleurs?
Ça fait du bien de faire un peu de ça. Bon, la question serait un peu plus large. Moi, vous avez beaucoup parlé de l'histoire, des différents partis, de l'évolution, etc., etc. Mais moi, en 2011, il y a quelque chose qui m'inquiète beaucoup. C'est la banalisation du Front National. Mais je vais le dire autrement. C'est comment aujourd'hui, beaucoup d'idées de l'extrême droite, pour ne pas rester sur le simple Front National, mais de l'extrême droite en général, sont vraiment passés profondément dans la société. Et pas que sur des questions d'islam, d'étrangers, d'immigration, etc. Regardez aujourd'hui comment c'est monnaie courante d'entendre plein de gens, à la télé certes, mais allez au bistrot du coin, vous allez voir que c'est la même chose et peut-être pire. Et ça c'est un jeu que j'aime bien faire, aller souvent au bistrot du coin, c'est très intéressant. Sur par exemple toutes les questions sociales. Il y en a ras-le-bol des aides, il y en a ras-le-bol de ci, il y en a ras-le-bol de ça. Ces questions-là, c'est au-delà de l'immigration, tout ça, c'est vraiment... Et c'est ça qui est très inquiétant, moi, je trouve. Comment ces idées-là, étroites, extrêmement dangereuses, sont en train de passer profondément dans la société française, bien aidées par Sarkozy, parce qu'il croit que ça va l'arranger, ça va peut-être pas l'arranger autant qu'il croit, mais ça c'est un autre problème. Mais est-ce que vous ne pensez pas que là, on est encore bien plus dans la difficulté, dans la crainte, etc., que les simples problèmes Front National, etc.
Quelques éléments de question.
Sur la reconstruction des deux blocs, oui, ça, je crois que ça a été pensé par eux. J'ai pu lire un peu un certain nombre de revues. Les revues, d'ailleurs, de la Nouvelle Droite avaient commencé à anticiper un peu dans cette question-là, sur, avec d'ailleurs des scissions à ce moment-là. Sur cette dualité effectivement entre l'islam d'un côté et le bloc national, dirons-nous. Ce qui est intéressant, c'est que quand on ne prend que la question religieuse, ça permet à la fois de retrouver tout ce courant catholique et de reprendre à son compte le courant laïque. Il y a un groupe qui s'est un peu développé sur qui est arrivé dans cette salle-là. C'est un groupe qui s'appelle donc le bloc identitaire, qui à la fois a fait de l'islam l'ennemi principal. On est en misant des groupes aussi qui sont très influencés par les théories de la révolution conservatrice allemande et notamment par les écrits de Carl Schmitt, désigner son ennemi et son adversaire principal. Donc ça doit être l'islam. Pourquoi ? Parce que grâce à l'islam, à la fois, on met derrière la question de l'étranger, mais ça, il y a eu tout le travail qui a été fait ces dernières années, où tout le monde le comprend, c'est pas la peine d'être très explicite, là-dessus tout le monde a compris, même que le FN n'a pas trop besoin de développer son discours sur l'immigration, parce que c'est son fond de commerce. Tout le monde sait que le Front National, c'est le parti qui est hostile aux étrangers. Donc c'est pas la peine d'en faire de trop là-dessus, tout le monde a intégré ça, cette et donc bon, ça permet, avec effectivement de désigner l'islam comme on dit, donc à la fois de défendre le thème de l'identité nationale, à travers ses racines chrétiennes, mais également à travers les racines républicaines. Et on voit donc, sous ce couvert-là, des convergences très curieuses qui se sont mises en place ces deux dernières années, avec un groupe qui s'appelait Riposte Laïque, qui était concernant et clairement aussi à la religion musulmane, c'est-à-dire pas simplement à l'intégrisme, mais à la religion musulmane. Mais avec des gens qui viennent de la gauche. Et moi, je suis allé observer ce qui passait l'an passé dans les assises contre l'islamisation de l'Europe. À la tribune, des gens qui ont milité à gauche pour leur passé, y compris des gens qui ont été une femme qui était à l'origine du MLF dans les années 70. Dans la salle, et au service d'ordre, un public d'extrême droite. Bon. Et on voit succéder tout au long de la journée des gens qui viennent expliquer tout le problème de l'islam en Europe, le représentant d'un parti de la Ligue de défense de Hollande, dire, vous comprenez, c'est terrible, parce qu'aujourd'hui, les juifs ne peuvent plus se promener dans la rue et exercer leur religion. Silence dans la salle. Enfin, vous voyez que 40% c'est constitué de skinheads, de néo-nazis, etc. Bon, mais disons, c'est vrai, c'est vrai. Et puis les homosexuels aussi. Les homosexuels ne peuvent plus se promener parce que les musulmans, les jeunes musulmans les attaquent. Les jeunes femmes ne peuvent plus sortir en mini-jupe. Elles n'ont pas le droit de... Et le tout sans que ça provoque de réaction dans la salle. Bon, c'était voulu. Mais effectivement, voilà, c'est le nouveau discours de cette nouvelle extrême droite. Et effectivement, je crois que l'abandon du communisme comme ennemi principal, l'islam est venu par derrière parce qu'il permet à ce moment-là d'intégrer deux courants qui a priori sont opposés, c'est-à-dire les laïcs Sur la présentation, alors, d'abord il y a eu une représentation qui était ce groupe, ça c'était une des idées lumineuses du président Dumas, puisque il n'y avait pas très loin quand même, mais le président François Mitterrand, qui était de Croix, je crois que là il a, ça a été une erreur quand même, de croire qu'avec un groupe Front National à l'Assemblée nationale, la droite serait obligée de choisir entre se compromettre avec lui ou alors faire une politique d'accord avec la gauche. Ça n'a pas marché puisque la droite a été majoritaire à elle seule, mais il s'en est fallu peu quand même. Et donc il y a eu un groupe de 33 députés nationaux. Je crois qu'au contraire, ça a contribué à le cimenter. Moi, ce qui me frappe quand même, et alors c'est la question des signatures, par exemple. Aujourd'hui, il faut donc avoir 500 élus pour être candidat, bien entendu. Le FN dit c'est scandaleux, c'est honteux, délit de démocratie. J'ai envie de dire, mais voilà un parti qui existe depuis 40 ans. Je veux dire, s'il n'est pas capable depuis 40 ans, en ayant occupé un certain nombre de positions de pouvoir, d'ailleurs, dans les régions, grâce aux alliances qu'il avait passées en 86 avec Gaudin et Jacques Blanc, notamment, et dans d'autres régions. Si ce parti n'a pas été capable de conquérir des mairies, de conquérir des cantons, etc., etc., ben je dirais, tant pis pour lui. Moi, c'est la règle à nous pour tous. Mais... Est-ce que le FN serait dissolu en étant représenté à l'Assemblée? J'en sais rien. J'avoue que l'exemple étranger, je pense par exemple, le cas de comparaison intéressant serait par exemple le parti autrichien, le parti libéral autrichien, qui a un discours finalement assez similaire. On a cru à un moment que le fait qu'il soit au pouvoir allait provoquer des dissidences, des scissions, et que le fait qu'il allait s'écrouler électoralement. Les récentes élections ont prouvé le contraire. Donc, je crois que dans ces affaires-là, on regarde souvent les thermomètres et les différentes formes de thermomètres et comment on pourrait les utiliser, mais on oublie un peu la maladie profonde. Bon. Et le FN n'est que le révélateur de la crise qui traverse la société française depuis un certain nombre d'années. Bon. Avec ce que je disais tout à l'heure hein, sur la... y compris sous un point de vue mémoriel et historique. Cette espèce d'impensé sur les guerres coloniales et sur la guerre d'Algérie. D'autres pays ont eu des guerres coloniales, ont eu des colonies, mais nous, on avait trois départements français. Et je connais peu de pays ont eu, en l'espace de quelques semaines, 1 million de ressortissants qui sont revenus à toute vitesse, qui sont venus s'installer en France. Et ça continue de peser. Et je disais hier soir à Bordeaux, vous verrez l'année prochaine, ça va ressurgir, parce que c'est l'élection présidentielle et le 50e anniversaire de la guerre d'Algérie. Et là, je ne sais pas très bien comment tout ceci... En tout cas, je vois comment certains politiques vont pouvoir l'utiliser. Ce qui me fait la petite transition sur la cartographie du Front National, parce qu'au départ, effectivement... J'ai regardé un peu les cantonales. Globalement, il y a toujours cette même ligne de fracture qu'il y a depuis le début, avec, paradoxalement, la composition sociologique qui a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'électorat du Front National sera joli d'abord, et puis est beaucoup plus populaire. Songez que dans la dernière étude d'opinion qui a été faite, en termes de catégorie sociale professionnelle, c'est 42% des ouvriers qui sont prêts à voter pour le Front National. Du coup, on comprend mieux aussi pourquoi un certain nombre de départements frappés par la crise industrielle, en particulier dans le Nord, en Lorraine, Moselle, Meurthe-et-Moselle, c'est là où le Front National fait ses meilleurs scores. Mais c'est vrai qu'il est difficile d'avoir une analyse globale quant au vote Front National. Parce qu'en Alsace, par exemple, là, sur les cantonales, le vote était beaucoup plus faible. En Alsace, qui est une vieille terre de droite, il y avait plus ce souci, je dirais, de demande d'ordre, d'autorité. Et puis, il y a le facteur, entre guillemets, contaminant, et ce que les spécialistes appellent l'effet de halo, avec la migration turque en Allemagne. Il y a peur que ceci vienne désormais en Alsace, même s'il y a déjà un début de migration turque en Alsace. En région PACA, il y a eu le vote rapatrié, je crois qu'il y a pas mal de gauche. Il y a effectivement, alors là tout le monde n'est pas d'accord. Bon, certains sociologues ont dit que la présence d'étrangers montré une corrélation entre une forte présence d'étrangers et un fort vote du Front National. Je trouve que ça ne marche pas à tous les coups. Dans certains quartiers, ça ne marche pas. Donc, voilà, non, mais. Il faudrait revoir un peu tout ça. Sauf qu'en ce moment, comme ça, ceci dit, bon. La seule chose dont on est sûr, c'est ce qu'on parlait sur la banalisation. La seule chose qu'on est sûr, c'est qu'en tout cas, le vote est fait, c'est toujours fait en fonction de trois motivations. La première, c'est l'immigration. Et on a toujours voté pour le Front National, parce que lui, au moins, il parle de l'immigration et il parle de renvoyer les immigrés chez eux. Ça, c'est vraiment la question. Et ça, alors là, par contre, je crois, oui, là, il y a la banalisation complète de ce thème, qui fait que le FN n'a plus besoin de mettre ses affiches et tout, ça a été complètement intégré, cette dimension-là. Et alors, par contre, dans les conversations de tous les jours, on entend, je veux dire, tel quartier, oui, après, quand on voit qu'il y a, Mohamed, etc. Bon, la parole raciste, en quelque sorte, a été libérée. Bon. Il y a le deuxième facteur, alors là, après, il y a l'interversion. C'est soit l'emploi, ça on l'oublie souvent, mais la deuxième motivation souvent chez les électeurs du Front National, c'est l'emploi. Et donc la question du chômage. Et le troisième, c'est la sécurité. Alors jusqu'aux dernières élections, c'était à peu près là, cet ordre-là. Au début, c'était immigration et sécurité. Aujourd'hui, l'emploi est devenu le deuxième facteur. Ce qui fait que Marine Le Pen a une stratégie économique qui est complètement différente. Elle dit aujourd'hui vouloir lutter contre la mondialisation, contre le système, de faire que l'État national soit là pour beaucoup mieux contrôler et encadrer le marché, pour relocaliser la production, pour avoir une véritable stratégie de politique industrielle, etc. etc. Bon, c'est encore un peu tôt, mais on verra si ce type de discours produit des effets.
Alors, il y a deux intervenants vers le bas, et juste avant, Daniel Chuyer.
Oui, bonsoir. Bon, j'ai bien entendu l'historique, mais quelque part, ça ne me gêne pas trop de ce que j'ai entendu, parce que on maîtrisait un peu les choses, on connaît quand même les discours depuis longtemps, et en fait, bon, il y avait des crises et donc un petit peu plus d'extrême droite, mais bon, en fait, dans cette période-là, il n'y a pas vraiment d'effet de levier extérieur, je dirais. Or, aujourd'hui, ce que je trouve qu'on n'insiste pas assez, c'est que là, on est dans une période beaucoup, mais vraiment beaucoup plus grave que tout ce qu'on a connu jusqu'à présent, et ça, je crois que là-dessus, il faut insister, parce que, justement, il risque d'avoir des effets de levier. Aujourd'hui, on sait que la finance est en train de nous faire, parce qu'on parle d'extrême droite, mais enfin, la finance est en train de nous faire, quelque part, une forme d'oppression extrême, avec une mise en place d'une technocratie très forte. Et donc, soit ça rejette des gens vers l'extrême droite, mais la question que je me pose, c'est que est-ce que la finance va pas récupérer l'extrême droite, justement, et ça sera beaucoup plus grave. Parce que, bon, l'histoire, par exemple, de l'islam et autres, c'est important, mais en fait, tout ça, c'est des boucs émissaires. Bon, ça sert à rassurer des gens de trouver des boucs émissaires. Ça a été l'immigration, c'est l'islam, ça peut être les juifs à une époque, on a connu ça. Ce qui est beaucoup plus grave avec, par exemple, Hitler, c'est que le capitalisme a utilisé Hitler à l'époque. Alors, bien sûr, après, il ne l'a pas maîtrisé. Mais je trouve que la situation d'aujourd'hui est beaucoup, beaucoup plus grave que tout ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent. Et ça, je crois qu'il faut insister là-dessus. Et la deuxième chose pour finir, c'est que ici, c'est important de connaître ce qui se passe, l'histoire. Mais c'est pas là, c'est pas ici qu'on va gagner le chemin, enfin la victoire sur le Front National. On va gagner le Front National, c'est en allant sur le terrain, aller discuter justement avec les ouvriers pour expliquer les situations, et ça pose le problème de la crédibilité des politiques aujourd'hui, parce que c'est quand même leur échec, hein, quelque part, l'extrême droite. C'est bien l'échec des politiques progressistes. Donc aujourd'hui, c'est bien, ça explique, mais ça sera nettement insuffisant si on veut gagner contre l'extrême droite.
Alors devant, une autre intervention, juste devant.
Oui, moi, ce qui me surprend beaucoup, c'est ce que vous dites par rapport l'EFN n'a pas besoin de parler de l'immigration, parce que de toute façon, les gens connaissent. Et moi, je suis désolé, sur les trois thèmes que vous avez abordés, à savoir l'emploi, la sécurité, je veux dire, le départ des immigrés ne créera pas d'emploi. La sécurité, c'est une illusion, c'est... immigrés, ils ne sont pas plus délinquants que le sont les Français. Et puis le troisième thème m'échappe, mais c'est du même style. C'est-à-dire que le discours du Front National fonctionne sur une illusion. Il n'y a aucune réalité. Et ce qui veut dire que les Français ne sont pas perméables aux études qui peuvent être faites sur ces problématiques. Et quand on publie les résultats, finalement, ça leur passe au-dessus de la tête. Moi, je pense que c'est vachement grave, ça.
Je peux poser une seule question. Le populisme, je voudrais savoir ce que c'est. Parce qu'il est tellement employé dans tous les sens, que, ou alors avoir quelques pistes de lecture intéressantes.
Il y a des pistes de lecture, moi j'entends un peu celui qui a été un moment où entre guillemets on a sans pensée, mais qui parfois un peu de rappeler sur nos sujets, mais qui rentrait à guerre, a produit un certain nombre d'ouvrages. Là-dessus, qui font le point effectivement sur les populismes, parce qu'en plus, selon les pays, le populisme, c'est qu'effectivement, lorsque c'est, je dirais pour résumer, c'est un peu la doctrine du chef, du leader, qui va s'adresser directement au peuple par l'intermédiaire, qui entend avoir un rapport un peu direct, franc au peuple, parce que lui ne saurait lui mentir. En échange, va un peu flatter un peu ses mauvais aspects. Et le populisme est toujours lié, d'ailleurs, à la démagogie. Il peut conduire, le populisme peut conduire à des phénomènes autoritaires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un terme qui est utilisé un peu... à tort et à travers, d'autant plus que certains s'en réclament, ils se disent, mais moi je suis populiste, parce que dans mon populisme, il y a une époque, etc. Enfin, mais moi j'ai quelques réminiscences marxistes, et j'aime bien, à la place du peuple, utiliser le concept de classe sociale. On y en peut plus clair. Sur l'aspect aujourd'hui, on est sur la maîtrise du phénomène. Moi, j'utilise toujours, effectivement, ou pas le fait, parce que c'est un peu mon tropisme, mais je trouve que l'histoire permet, sur le long terme, de replacer les événements dans la durée, afin de mieux comprendre aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Ce qui est vrai, et je peux le dire, aujourd'hui, on a recréé le groupe. On est le seul, à mon avis, aujourd'hui, qui existe, avec la CGT qui travaille de son côté. Mais dans les associations et les formations politiques, on est les seuls à s'être reconstitués un peu, donc reconstitution dissoute, et à essayer d'avoir au sein de ce groupe de travail des gens qui viennent un peu de tous les horizons. Hein. Donc il y a des gens qui militent au parti de gauche, il y a quelqu'un qui est un responsable des Verts, des Ligueurs, il y a pas mal de gens du NPA. Il y a quelques gens du PS, bon. Bref, on a reconstitué ce groupe, et je dois dire que le groupe a du mal à fonctionner. Alors, bien entendu, on procède avec des auditions, etc. Mais parce que on a tous le souvenir des mouvements de mobilisation de la période passée, et qu'on voit bien que c'est tout comme ça que ça va se passer, et qu'on va pouvoir contrer Marine Le Pen et sa formation politique. En tout cas, pour faire simple, le F comme fasciste, N comme nazi, autant je pense qu'il a eu comme fonction de diaboliser le Front National, et dans quelque sorte de créer une sorte de cordon sanitaire autour de lui, pour éviter qu'il y ait la moindre alliance. Et d'autant plus justifié qu'il y avait en son sein des hommes, des femmes, des courants politiques qui développaient cette idéologie-là. Même si le FN n'était pas un parti fasciste, hein. Mais en tout cas, il ne s'inscrivait pas dans cette dimension-là. Aujourd'hui, je pense que c'est plus du tout, c'est totalement inopérant. Et ça, on est bien y compris, je dirais, les gens du NPA qui sont avec moi en sont bien conscients, je veux dire. On est arrivé aussi à un stade, alors on maîtrise, mais en même temps on arrive à un stade où tout est banalisé également, dans les actions des très droits. J'ai suivi d'un peu près, alors là on est sur une autre famille, qui était plutôt la famille qui soutenait Bruno Gollnisch, à droite, contre révolutionnaire, catholique, athée. C'est la première fois depuis 1966, c'est-à-dire date où l'extrême droite est allée manifester devant le théâtre de l'Odéon pour demander à ce que la pièce, les paravents de Genève, ne puisse être jouée, provoquant un débat à l'Assemblée nationale, et même Malraux étant monté au créneau, mise à l'écoute. C'est la première fois depuis 1966 qu'on a de telles manifestations pour interdire une pièce de théâtre. Avec tous les soirs, des manifestants dehors, et au début, des manifestants dedans. Et maintenant, il a fallu un certain nombre de quelques jours pour qu'on jubile un peu, mais on a jubilé par des méthodes sécuritaires. On n'a pas jubilé parce qu'en face, il y avait une réaction de gens qui pensaient que oui, il faut défendre la liberté d'expression, il faut défendre la liberté de création, il faut défendre la culture, il faut défendre la laïcité. Moi, j'espérais que le samedi, et parallèlement à la manifestation des cathos intégristes, qui faisait entre 1500 à 1800 personnes, c'est pas rien, parce que c'est quand même des groupuscules, hein, au départ, Saint-Nicolas du Charbonnet. J'espérais qu'il y aurait eu, voilà, 7000, 8000, 10 000 personnes, voire place du Châtelet, pour dire, on est là pour soutenir. Non, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. La semaine d'après, ça a été joué au 104, il y a eu quelques contre-manifestants à l'appel des libertaires et du NPA, mais ça a été totalement insignifiant. Nicolas Sarkozy, je donnais cet exemple hier soir, justement, sur, en même temps, les impensés de la guerre d'Algérie. En 80, Dominati, secrétaire d'État au rapatrié, réinaugurait un buste en hommage aux anciens de l'Ouest, buste qui reste en plastique. C'est un tollé à l'Assemblée nationale. Les députés du RPR montent au créneau pour attaquer le gouvernement dont, en principe, ils sont des soutiens, puisque c'est la majorité RPR libérée. En disant c'est scandaleux, c'est une attaque, à la demande du général de Gaulle, etc. La semaine dernière, Nicolas Sarkozy remet la grande croix, je crois, de la Légion d'honneur à Élie Sambar, qui a été un des principaux acteurs du putsch d'Alger en 1961. Et ceci dans la plus totale indifférence. On le sait parce qu'il y a eu des articles de journaux, mais je n'ai pas vu l'interpellation au niveau des questions d'actualité, du Parti Socialiste, peut-être au niveau du PC, je ne sais pas. Bon. Il y a la question de Bijard qui va. Bijard aux Invalides. Le roi des soldats, certes. On a tant perdu les guerres de Chine. C'est quand même un de ceux qui disait, en 59, écoutez, le général de Gaulle, vous a dit, on arrête la torture, et moi je vous dis, on continue. Ça pose quand même un certain nombre de questions. Alors ce sont que des questions de mémoire. Mais je veux dire que, moi je crois vraiment qu'il y a, comment dire, ce qui explique aussi un peu la spécificité spécificité française par rapport à l'extrême droite, l'immigration, l'immigration d'origine maghrébine, algérienne, etc. D'ailleurs, quand vous prenez les papiers du FN, et souvent les, on n'attaque pas les Marocains, les Tunisiens. C'est souvent et les Algériens pour la double nationalité, etc. etc., etc. C'est ça qui est mis en cause. Alors, le problème, il est là aujourd'hui, c'est vrai. Le fort de l'histoire du passé, on sent bien que ce qui est en train de se mettre en place, c'est quelque chose sur lequel on n'a plus de... comment dire... on a peu d'accroche. Et on ne va pas comment se mobiliser. Alors, nous, on essaye modestement, parce qu'en plus, je crois que ça va être un combat sur la durée. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et on espère donc que d'autres prendront la suite. Voilà, on refait le tour sur la situation, on s'entoure d'un certain nombre de conseils, de sociologues, d'historiens, qui nous expliquent voilà, comment ça se passe, etc., etc. On va essayer de construire des argumentaires pour les sections de la Ligue des droits de l'homme. On va demander aux sections de la Ligue des droits de l'homme de nous faire remonter l'information, etc., etc. Donc, c'est... c'est un combat de... Oui, c'est un combat de longue haleine. Et donc, ça veut dire monter des réunions, faire des manifestations, voir des contre-manifestations, etc., etc. Et surtout, éviter ce phénomène de banalisation qui est en train de se mettre en place. Sur la question de banalisation de l'immigration, c'est vrai, j'avais essayé en 97, certains peut-être d'entre vous se souviennent, à l'époque la Ligue des droits de l'homme avait des notes et études de documents. Et donc j'avais écrit une note et étude de documents sur l'extrême droite, qui avait provoqué d'ailleurs quelques réactions. Au sein du bureau national de la Ligue, parce qu'on voyait c'était le visage d'une femme avec un col de perles, et de sa bouche sortait un énorme rat. Donc, quelques contrôles pour savoir s'il fallait publier ou non de ce dessin qui était paru dans le monde. Bon. Donc j'avais fait ce document avec une partie analyse du vote de 95-97, connaissance du Front National, les différents groupes, les fiches biographiques. Et l'argumentaire. Ben, c'est pas si évident que ça en réalité. Parce que beaucoup du discours du Front National fonctionne effectivement sur le fantasme. Et pour expliquer que sur l'élinquance étrangère, ce n'est pas tout à fait vrai, etc., vous allez en mettre des tartines et des tartines, puis aller chercher les chiffres, et puis essayer d'expliquer rationnellement ce qui est perçu, ce qui n'est pas perçu rationnellement. Et c'est pas évident, c'est-à-dire que les argumentaires contre le Front National, ils vous disent il y a plus de 8 millions d'étrangers qui sont pas là, point terminé. Puis après, ça circule, ça bouge, ça tourne en boucle, etc. Et vous, alors après, vous allez reprendre les chiffres de l'INSEE, etc. Et non, c'est pas vrai, parce qu'entre telle époque et telle époque, etc. Bon. Donc, les argumentaires, je pense qu'il faut les faire, et je pense qu'il faut combattre le FN pied par pied, pied à pied, sur tout ce qu'il peut écrire, tout ce qu'il peut dire, etc., etc. Mais en même temps, on est sur deux registres. Il faut être conscient aussi qu'on est sur deux registres différents. L'immigration, c'est facile. Ça permet de dire, regardez ces gens, ils ont voulu l'indépendance, on voit dans quel résultat ils sont, et puis maintenant ils viennent chez nous. Ça, c'est pour les Arabes, les Algériens, etc. Ça peut permettre de dire, regardez, aujourd'hui on est dans une société sans crise, on est une société en crise, perte des repères, on est une société qui n'a plus le temps de réfléchir, etc., etc., et sur son passé, etc. Bon, effectivement, du coup, on accepte n'importe quoi, des religions étrangères, importées, etc. Il faut renouer avec nos véritables racines. Bon, et ça, on ne peut pas, parce qu'il y a des religions qui sont en train de venir imposer leurs lois avec la charia, la burqa, etc., etc. Bon. Ça fonctionne comme ça. Je vois, la mairie de Paris a organisé une soirée culturelle de musique pour la fin du ramadan. Je ne sais pas si c'est très laïque ou pas, je constate simplement que, effectivement, les gens qui ont fait le ramadan sont venus à l'hôtel de ville, on leur permet de rentrer dans l'hôtel de ville, au sein des fêtes, et d'écouter de la musique et manger et boire, pour un terme. Il n'y a pas de... Bah, en dessous, vous aviez des gens qui manifestaient en disant « Ah, mais attention, ça c'est le début de la charia hein. !» Aujourd'hui c'est ça, et demain, c'est le port d'un burqa pour toutes les femmes, c'est la situation, c'est ça, pour tout le monde. Je veux dire, c'est tout ce discours qui, actuellement, qui a été diffusé par différents vecteurs. Bon. Et l'immigration, c'est commode, parce que ça vient d'expliquer le déficit de la sécurité sociale, le problème des cotisations, le problème de la fraude, le problème de la sécurité, le problème de l'économie. Quand un ministre de l'Intérieur ose mettre en œuvre une circulaire de préférence nationale, qui est le cœur même du programme. Personne ne l'a remarqué, mais quand Guéant dit par rapport à tous les diplômés étrangers, ils ne pourront exercer un emploi en France que si un Français d'abord ne peut pas l'exercer. Donc ça veut dire priorité aux Français. C'est le discours de la préférence nationale et de l'UFL. Et ça, là aussi, c'est passé un peu rapidement comme une lettre à la poste. C'est-à-dire, normalement, enfin, je sais, on va voir si sa filière est attaquée. En principe, elle devrait être retoquée par le Conseil d'État, parce que le contraire à la Constitution. Hein. Il y en avait un qui avait essayé ça, hein, je signale. De n'accorder des prestations sociales pour le troisième enfant que si vous étiez de nationalité française. Il s'appelait Jacques Chirac.
Bien, je crois, si vous me permettez, que quand on va de l'heure, on va non pas en rester là, mais disons, clôturer provisoirement ce débat. Moi, je voulais d'abord te remercier, Philippe, de la profondeur de ton analyse, de la richesse de ton intervention. Il semble que ça nous apporte effectivement beaucoup de choses. Ça nous amène aussi, je pense, à mesurer l'enjeu d'un combat que tu dis long, d'un combat que l'on a mené pied à pied. Et sans faire de l'impasse sur la moindre manifestation qui peut avoir lieu, y compris dans l'autre territoire, sur l'autre territoire. Donc,